À la radio. La radio n'a pas besoin de...
Si, c'est bon.
Si, on y est. C'était Jitsi qui déconnait. Voilà. Ouais, c'est quand même génial parce qu'au bout d'un mois, un mois et demi, on est toujours aussi chouette de la technique.
Mais c'est bien. Moi, ça me plaît.
Ouais, ça fait un petit style. Le jour où on sera capable de tenir une émission, ça sera grand temps de se déconfiner.
Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas devenir des professionnels.
Ouais. Et bah,
alors.
Et bah, bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Radio Sans Nous.
Voilà, ce midi, sur Radio Sans Nous, on parle de voiture.
Voilà. On parle de voiture, après on va écouter Monique Pinson-Charlot, et puis Céline va nous parler des livres qu'elle aime, et on écoutera une playlist de Hooligan Pop, et on fera un quiz Star Wars. Ce soir, sur Radio Sans Nous, à 19h, on joue avec la sauce ludique et à 21h, on est en scène ouverte.
Ça pète.
Ouais.
Ça pète. Je tenais à dire bravo à Radio Sans Nous. Merci. Il est encore temps pour la scène ouverte de nous envoyer vos productions musicales. C'est bien dit comme ça.
Tout à fait. Musicales ou sonores.
Ouais, vos productions. Même ça peut être des mimes, il y a déjà des gens qui ont fait des mimes à la radio. Voilà. Ce soir, on a des tours de magie, on a encore Ronnie et les featuring qui nous envoient de la musique, on a quoi, on a d'autres trucs, on a Axi, j'ai peur d'écorcher le nom, désolé. On regarde, je vais dire une bêtise. Tac, c'est l'hiver, c'est ici, je pense que c'est le 23 avril. Et du coup, Oxic nous a renvoyé deux titres aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on attend les autres.
Voilà. Et puis, on voulait commencer cette émission par vous parler un peu d'une association qui existe à Nantes depuis 2 ans.
Si on dit 3 ans alors qu'il n'y a pas eu de permis, c'est un peu lent.
Ouais, non, c'est 2 ans. Et qui s'appelle l'auto-école autogérée, surnommée la Toto-école. Voilà. On avait envie de parler de ce projet-là parce que il n'en existe pas beaucoup, de plus en plus, mais il n'en existe pas beaucoup. Mais en fait, il faut savoir que depuis 2016, c'est possible d'apprendre à conduire hors des auto-écoles classiques, à partir du moment où on apprend à conduire sur une voiture double pédalier qui a, qui est passée aux mines, etc., qui est officiellement une voiture double pédalier, et qu'on est accompagné par des personnes qui le font de manière bénévole et qui ont plus de 50 permis sans interruption. Voilà.
Mais alors, tu pourrais à des moments utiliser le passé, en fait, quand tu parles, parce que je pense qu'en même temps, ça fait un peu livre d'histoire, tu vois. C'est,
oui.
Rappelez-vous, début du 21e siècle, on utilisait encore des voitures. Les gens sortaient régulièrement de chez eux. Et il y avait ce mode de transport, alors que René Dumont avait qualifié dans les années 70 en disant la voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. Et du coup, il y avait malgré tout, il y avait une importance quand même quotidienne de pouvoir utiliser celle-là, ce truc-là, alors pas forcément quotidienne, ça dépendait des gens, mais du coup, en tout cas, il y avait un besoin, et puis en même temps, c'était associé un peu à cette question de liberté et de déplacement. Voilà, ça consistait à mettre des restes d'animaux qui avaient dépéri pendant des années dans le sol, qu'on avait transformé après dans des raffineries, et du coup, ça faisait avancer par un truc qu'on appelait le moteur thermique, une voiture. Voilà.
Et rappelez-vous, coup, à cette époque-là, pour apprendre à conduire, ça coûtait en France en moyenne 1 800 €. Et il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas se payer l'apprentissage de la conduite.
Ouais, parce que le revenu médian de la société, donc que la personne du milieu de la société touchait, c'était en dessous de 1 800 par mois. Je crois que c'était d'être 1 600 à cette époque-là, le revenu médian. Et puis bon, bah, il y avait, je sais pas moi, 20% de la population qui était sous le seuil de la pauvreté, 15%, un truc comme ça, quoi. Et en même temps, c'était aux pauvres qu'on demandait de se déplacer loin, donc pour pouvoir aller travailler, par exemple. C'était une époque assez particulière.
Voilà. Et dans ce contexte-là, il y a des personnes qui... Alors, qui venaient plutôt soit des personnes qui ne savaient pas encore conduire ou qui n'avaient pas leur permis de conduire, des personnes qui étaient plutôt dans le milieu de la mécanique, et puis des personnes qui avaient bien envie de travailler sur la question de la formation et du partage de compétences, qui sont réunies autour d'une brochure qui avait été écrite à Lyon, qui s'appelle « Auto-école buissonnière, apprendre à conduire entre potes, passer le permis librement », qui est disponible sur infokiosque@pluriel.net. Et qui, autour de la lecture de cette brochure, se sont dit « Mais en fait, on pourrait créer notre auto-école à nous pour payer moins cher, pour apprendre entre nous avec des personnes qu'on choisit et avec des personnes avec qui on se sent bien, et puis pour tenter l'aventure, quoi. »
Ouais. Et ça a vu le jour. Alors au début, par du code qui s'est mis en place sur Nantes, là, on s'est retrouvés, on faisait du code, et puis après, petit à petit, les gens qui avaient le permis et qui voulaient bien accompagner, ils se sont retrouvés, ils se sont testés sur la voiture, de se foutre du côté du passager, de conduire qu'avec les pédales, de conduire qu'avec le volant, d'essayer de faire des créneaux comme ça. Après, comme on était fou et folle, on est parti dans les routes de la ville, et puis on s'est entraînés. Pendant ce temps-là, les copains-copines, ils apprenaient un peu le code, histoire d'avoir quand même des bases de code. Certaines voulaient avoir le code en entier avant de commencer à conduire, d'autres ont commencé un peu avant, et puis on a continué de commencer à réfléchir, à se dire, comment est-ce qu'on retransmet? Là, il y a d'autres copains-copines qui étaient, par ailleurs, de métier moniteur-monitrice d'auto-école, qui nous ont transmis plein de choses. Voilà, là, on était, une quinzaine de personnes qui sont dans un truc de se former, là. Et à circuler dans les routes de la ville de Nantes, et voire même des fois on était jusqu'à se baigner à Saint-Nazaire. C'est un truc. Et on n'a même pas encore cassé la voiture. C'est dire quand même si ça marche.
Et puis, du coup, on a l'auto-école à Nantes. Elle a commencé à accueillir des personnes, au départ, du coup, plutôt des personnes qui avaient monté le projet. Et puis là, elle accueille de plus en plus des personnes. Peut-être on peut dire deux, trois trucs de son fonctionnement et de où choper les infos. Ouais. Nous avons un site internet qui est https://toto-école.net, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les petites informations qu'on va vous donner là, et peut-être de dire que le projet de cette auto-école, c'est de se rencontrer et de construire ensemble la formation et notre rapport à la conduite, etc. Et d'essayer de faire des permis le moins cher possible, ce qui n'est pas que simple, parce que notamment, on ne paye pas de formateur-formatrice, mais on a acheté une voiture. Qui était dans les clous à ce moment-là pour le passage de permis, tout ça. On va se retrouver à devoir en racheter une parce qu'elle est trop vieille maintenant pour pouvoir refaire passer des nouveaux permis, etc. Et du coup, ça a un coût plus le carburant. Vous savez, c'était ce truc qui, à une époque, coûtait cher. Mais grâce au pangolin, maintenant, le prix chute un peu.
Oui, ça va remonter.
Oui. Et du coup, peut-être pour donner un ordre d'idée, la Toto École, elle se réunit à B17, au 17 rue Paul Bellamy à Nantes, le dernier lundi de chaque mois, et elle fait une permanence d'accueil à 18h30, le dernier lundi de chaque mois, à B17, pour accueillir les personnes qui souhaiteraient devenir formatrices ou qui souhaiteraient apprendre à conduire. Ce qu'on a décidé sur les questions de sous et tout ça, c'est qu'on n'avait pas envie de faire une tarification à la réussite, enfin, ou à l'efficacité dans l'apprentissage, dirons-nous. Du coup, le permis, enfin, l'apprentissage de la conduite se fait avec une tarification au forfait. C'est pas parce que j'apprends vite que je paierai moins cher, ou plutôt l'enjeu c'était c'est pas si j'apprends lentement que je paierai plus cher. Et du coup, on a quatre plafonds, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, 3-4, je sais plus trop. Mais il y avait le premier qu'on avait mis, en fait, ça change un peu. On s'était dit quelles sont les aides pour les plus précaires. Et du coup, d'essayer de mettre un premier truc autour de tiens, j'ai pas de revenus quasiment, mais du coup, comment est-ce que la collectivité, Pôle emploi, d'autres personnes peuvent supporter le tarif? Et au départ, on pensait que c'était 300 balles. Ouais, en fait, il se trouve que moitié, on peut peut-être avoir 1000 balles. Mais du coup, ça va voir. Après, il y a vachement de cas individuels. Mais du coup, il y a un premier tarif qui est autour de 300 balles, on va dire. Un deuxième tarif qui est plus tarif coûtant, qu'on avait évalué à 500 balles.
600.
Qui est autour de 600, en réalité, qui est 600 balles, parce qu'une heure avec l'amortissement de la voiture et tout le bordel, là, ça va coûter en gros 20 balles. Oh, pardon. Et puis, un autre qui est autour de 750-800, non
800. Et puis, ouais. Il y a en gros, et après, au-dessus, en se disant que c'est cool s'il y a des personnes qui ont moyen de... qui, en fait, auraient pu passer leur permis dans une auto-école classique, mais que ce projet-là botte plus, ben, ça peut faire de la solidarité et ça peut nous permettre de maintenir des tarifs en dessous du prix de revient, quoi. C'est ça, quoi.
Ouais. Bah, et puis après, sur les méthodes, bah, on essaye de... comme de toute façon, à la base, on est un truc, on l'a monté ensemble pour répondre à des problèmes qu'on a et puis pour faire avec d'autres. On est aussi un peu là-dessus en pédagogie, quoi. Du coup, on essaye de, on se forme des deux côtés. L'idée, c'est aussi que sur les réunions, on puisse discuter un peu de bah, comment ça se passe dans la voiture et puis de se filer des coups de main et du coup de se dire, sur une séance typique, on serait sur discuter ensemble de qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Comment ça va, de pouvoir se faire des pauses, de pouvoir se faire des ressentis, ça veut dire de se dire comment tu vas, comment tu vis le truc, est-ce que tu as besoin de plus de quelque chose, voilà, d'être vachement, on pourrait dire, en interaction et puis de se prendre en compte voilà, l'une et l'autre dans le machin. Et puis, du point de vue un peu politique, bah, c'est un peu ce qui vient de se dire là un instant, là, de pas être freiné par la thune, elle ne vienne pas nous emmerder tant que possible, et puis on est bien dans des trucs de mutualisation. Et de se dire, bah, c'est important de mutualiser des moyens. Là, on mutualise une voiture, un truc d'apprentissage. Il y a d'autres, collectifs qui font d'autres types de mutualisation sur Nantes. Et du coup, on se rattache un peu à ça, quoi. Comment est-ce que, dans l'organisation collective qui se fait à droite à gauche, on réussit à répondre à nos besoins et puis aux autres avec qui on peut s'allier pour avancer, quoi.
Et peut-être cette envie, elle est aussi née du fait que parfois c'était complexe de retourner en apprentissage, notamment pour des personnes qui n'avaient pas appris à conduire en étant ado, quoi. Et qu'aller dans une auto-école, passer la porte d'une auto-école, c'était pas que simple, qu'on avait quand même plein d'échos de situations de merde avec des moniteurs, monitrices d'auto-école. Et du coup, il y avait cette envie de pouvoir avoir un contexte un peu sécurisant dans l'apprentissage, notamment c'est une possibilité qu'on s'est laissée de pouvoir faire de l'apprentissage en non-mixité, de pouvoir soit avoir un formateur, une formatrice référente, soit tourner sur les personnes qui nous apprennent à conduire, enfin voilà, d'avoir une formation qui s'adapte aux personnes et à leurs besoins, à leurs envies, quoi. Et à celle des formateurs formatrices, parce que bah évidemment c'est des copains copines qui donnent du temps et de l'énergie là-dedans, et du coup bah en tant que formateur formatrice, on peut aussi dire hey, j'ai pas très envie en fait, je m'entends pas avec cette personne et du coup j'ai pas envie de lui apprendre à conduire, quoi. Ça m'est pas à l'aise. C'est évidemment une chose possible.
J'avais une autre idée mais elle est partie, je crois.
Ah mince. Ben, moi, j'avais au moins en tête encore que, du coup, on accueille à 18h30 le dernier lundi de chaque mois à B17, au 17 rue Paul Bellamy à Nantes, à côté de Talensac. Et qu'il ne faut pas hésiter à venir si ça vous intéresse, parce que ben, y a des gens qui bossent leur code et qui pourraient avoir besoin de coups de main pour se motiver collectivement. On a besoin de formateurs, formatrices. Et puis, ben, on a hyper envie d'accueillir des nouvelles personnes pour pouvoir jouer ensemble avec la Totomobile.
Et si je voulais parler de la charte, parce que du coup, on a un truc d'éduc pop, dans le sens où bah, ensemble, on se dit qu'on est capable, on crée des trucs, et puis on essaie de... Bah aussi, c'est plus qu'éduc pop, on essaie de... Bah, ça crée des espaces qui font un peu le monde dans lequel on a envie de vivre, quoi. Et du coup, on se dit que c'est important de discuter de la vie, de la politique, de ce qui se passe autour de nous, et du coup... de d'expliciter un peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Et pour ça, on a écrit une charte. Enfin, on est en processus d'écriture d'une charte, ça fait longtemps, quoi. Et du coup, il y a plein de trucs dedans, mais du coup, notamment par rapport à ce que... Il y a des outils de ça, ce que tu viens d'expliciter, par exemple, se dire la non-mixité ou des choses comme ça, et de se dire, ben voilà, on a pas envie d'être dans des... On a envie de lutter contre les logiques d'oppression. On se sent pas à l'aise dans la société capitaliste, enfin du coup plein de trucs comme ça, du coup qu'on vient expliciter quoi dans la charte qui est au travail. Mais on pense que voilà, c'est important qu'on fasse ça aussi ensemble.
Voilà, ben on peut aussi dire que pour le moment la Toto-école elle est plutôt à l'arrêt à part sur l'activité code parce que il y a des personnes qui profitent du confinement pour booster leur code. On invite d'ailleurs toute personne qui se sentirait seule dans ce processus à ne pas hésiter à faire des quiz codes sur Radio Sans Nous pour motiver les autres. Et puis que sûrement le dernier lundi du mois après confinement, il y aura une grosse réunion de ce collectif-là et du coup n'hésitez pas à venir à la permanence d'accueil quoi, pour qu'on relance cette petite histoire.
Ouais, grave. Et bah, du coup, on se voit fin mai.
Ouais. Pou, laissez passer la Totomobile. Pou, laissez passer la bagnole qui est toute cassée.
Ouais. Et bien, c'est parti pour la reine du créneau de Anne Sylvestre. Envoyez la musique.
Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que ton. Tous les clients d'un bistrot me beuglaient leurs commentaires. Mais passe là, ta marche arrière. Ah, je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernos, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, pas dans une pochette surprise. La voiture, elle est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon pour conjurer la parano. Je suis devenu la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein. Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, c'est pousse-toi de là que je t'iboite. Maniaque de la paix de phare, abuseur d'antibrouillard. Ce chic qui rien ne distingue, le volant avec un flingue. Avant que de les laisser nous jeter dans le fossé, résistons à ces tyrannos. Nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais c'est jamais le bonheur. Alors si on vient à côté.
Radio Sans Nous. Rubrique, pas de côté.
Bonjour Monique Pinson-Charlot. Voilà, donc j'espère que le confinement se passe pas trop mal pour vous.
Ben pour moi, ça va bien, parce que dans ma maison, de grandes baies vitrées qui donnent sur un ciel bleu, sans aucune trace d'avion, un ciel bleu, moi qui ai vécu en Lozère, à Mende, dans mon enfance, c'est le même ciel bleu que celui de cette Lozère-là de l'après-guerre. Pas pollué du tout.
D'accord. Eh bien, tant mieux. Donc, on va passer aux questions. Nous avons proposé à nos abonnés sur les réseaux sociaux de nous transmettre leurs questions, un exercice inédit pour nous. Nous en avons sélectionné quelques-unes. On a aussi reçu beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations pour vos travaux qu'on vous transmet donc.
Ah ben c'est gentil, j'apprécie beaucoup deux choses dans ce que vous venez de dire. Le fait de me poser des questions qui vont être très certainement variées du fait que ce sera des différentes personnes que je ne connais pas en plus, donc la surprise. Et l'angle de réponse sera évidemment différent de questions convenues. Et puis les messages d'encouragement, mais c'est toujours bon à entendre et apprendre. Hein, parce que,
on en a reçu beaucoup.
Super.
Alors, pour commencer, comment analysez-vous et que retenez-vous de l'allocution du président Macron hier soir, lundi 13 avril ?
C'est toujours un petit peu là, j'ai ressenti la même chose que les allocutions précédentes, c'est-à-dire quelqu'un qui est que je ressens comme illégitime pour les déclarations qu'il fait, c'est-à-dire que il appelle, il fait comme si on était une nation, comme si on était un collectif uni derrière un chef de guerre. Alors que il n'a aucune légitimité pour revendiquer cette union qui se manifeste par nos salariés, nos pompiers, je vous remercie de ceci, je vous suis reconnaissant de cela, alors que c'est lui qui, dès son arrivée à l'Élysée, où il a été placé par les puissances d'argent, c'est le fondé de pouvoir de l'oligarchie, il n'a cessé de diviser les Français, c'est faux. Dès qu'il est arrivé, nous, il nous a pompé 1,7 point de CSG sur nos retraites, soi-disant qu'on était trop riches, les retraités, et qu'il fallait passer ça aux salariés du privé, donc ils montaient les uns contre les autres. Là, il remercie nos associations, nos bénévoles, alors que c'est lui qui a détruit tout de suite tous les emplois aidés qui étaient si précieux pour tous les réseaux de solidarité en France. Il a donné des dizaines et des dizaines de milliards d'euros sous forme de cadeaux fiscaux aux plus riches et il voudrait qu'on soit solidaires. Eh bien non, c'est un manipulateur et pour moi, je ne lui reconnais aucune légitimité.
Ok. Pour continuer, une question de Coco. Est-ce que, d'après vous, la gestion catastrophique de la crise est due à un excès de confiance de la classe dirigeante ou alors, conscient de ce qui arrivait, à du cynisme, considérant qu'un nombre élevé de morts est préférable à des pertes économiques ?
La gestion catastrophique n'est due que au fait qu'ils recherchent, ce sont des capitalistes, c'est-à-dire, quand j'ai parlé d'oligarchie, le fondé de pouvoir de l'oligarchie, j'aurais pu dire le fondé de pouvoir de la classe des capitalistes, c'est-à-dire les capitalistes sont ceux qui détiennent les titres de propriété, disons pour faire court, des grands moyens de production et d'échange. Aujourd'hui, il faudrait rajouter des médias, des ressources naturelles, des ressources agricoles. Mais donc, c'est toujours un profit avant la vie des autres. Leur vie à eux compte beaucoup, puisqu'il faut qu'ils restent en vie, qu'ils soient solidaires, qu'ils continuent à s'enrichir. Mais par contre, la vie du peuple ne les concerne guère, sauf quand on fait grève générale. Si, évidemment, on refuse l'exploitation du travail, ça n'irait plus. Si vous voulez, c'est... ce qu'il faut que je dise, c'est que, si vous voulez, quand hier, Emmanuel Macron dit « Ce virus-là, on ne le connaissait pas. C'était un virus inconnu. On ne pouvait pas prévoir. » Et du coup, il y a eu des croix qu'il a reconnues, quelques petites défaillances. C'est faux. C'est-à-dire, c'est un mensonge. il y avait, j'ai le nom de deux chercheurs qui travaillaient sur spécialistes du coronavirus, et donc des différentes espèces de coronavirus, dont celui qui a donné l'épidémie du SRAS, qui est vraiment le père du Covid-19, les deux chercheurs, Bruno Canard à Marseille et Hubert Long, un vétérinaire chercheur à l'INRA, ont vu, d'une manière différente dans l'un et l'autre cas, leur crédit de recherche annulé, leur équipe de recherche dissoute, parce que travailler sur des virus comme ça, sans pandémie programmée, sans être bien sûr que ça servirait un jour, eh bien, c'était la recherche fondamentale comme ça, avec le néolibéralisme, c'est juste plus possible. Alors, vous allez me dire que j'ai pas répondu. Alors, si vous voulez, non, c'est, on peut prendre des qualificatifs comme c'est dans la question de Coco parlant de cynisme. On a le droit de penser ça, mais si vous voulez, nous, comme sociologues, on se contente de montrer qu'ils sont mobilisés pour défendre leurs intérêts de classe, qu'ils sont dans une guerre de classe, et non pas, ils ne sont pas dans une guerre avec nous contre un virus, ils sont dans une guerre de classe contre les peuples, les riches contre les peuples, et le coronavirus, le Covid-19, n'est qu'un champ de bataille dans cette guerre. Et ils l'entendent bien, on va le voir, j'imagine, avec vos autres questions, ils l'entendent bien en tirer profit de cette affreuse histoire.
Ça fait directement le lien avec la question suivante, une question de Miss Terre Happy, qui pose cette question. Pensez-vous que le Covid-19 sert les intérêts financiers et sociaux de la grande bourgeoisie?
Alors, je vais répondre par l'affirmative. Un oui, froid, net et massif, parce que les capitalistes gèrent les crises. Là, une pandémie, honnêtement, je n'irais pas soupçonner les capitalistes d'avoir foutu ce virus dans une chauve-souris en Chine pour déclencher cette pandémie. Il n'a pas besoin de cette histoire de complot, parce que en réalité, le coronavirus, le Covid-19, cette épidémie, cette pandémie, n'est due qu'au système capitaliste. Ce sont les capitalistes qui sont la seule et unique cause de cette pandémie, puisque c'est le résultat de la déforestation, du dérèglement climatique, avec toutes les choses qui vont avec, les pesticides de l'agriculture, l'urbanisation massive, la bétonisation, etc., qui ont abouti à ce que l'habitat de la faune sauvage soit en osmose, maintenant en mélange, avec les êtres humains. Et donc ça donne des virus avec des maladies que les écologues appellent des zoonoses, N-O-S-E-S, zoonoses, dont une des premières apparitions, ça a été le VIH, le sida, avec des primates en République démocratique du Congo, puis ensuite il y a eu beaucoup d'autres SRAS, comme je l'ai déjà dit, et puis des tas de choses comme ça, et aujourd'hui c'est le Covid-19, c'est-à-dire que le dérèglement climatique, dont la cause est liée à la recherche du profit, au pillage de la nature, parce que le capitalisme est cruel et violent. Il exploite non seulement les êtres humains, mais de manière simultanée et concomitante et imbriquée, il pille la nature, il exploite les animaux, il exploite les végétaux. Et du coup, ça crée des virus, si vous voulez, qui sont dans la chauve-souris, qui sont anodins pour les chauves-souris, et puis qui entrent en contact avec l'homme, et là, se transforme en virus pour l'homme extrêmement pathogène, extrêmement contagieux. Et maintenant que le capitalisme est totalement mondialisé, et bien que nous, Français, nous, les capitalistes, pas nous Français, je comprends, les capitalistes français, pour faire des économies, ont délocalisé la production des médicaments, la production de beaucoup de choses textiles au Bangladesh, en Chine, dans des endroits où le SMIC est au tarif local celui de la misère. Et puis après, il faut les transporter par avion, par bateau, jusque chez nous. Mais ce, à flux tendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock pour faire encore plus de profit. Et alors, je m'emballe pour... Alors donc, je continue. Et du coup, on peut dire que c'est une pandémie, la première pandémie, la première secousse d'un séisme incroyable du capitalisme mondialisé. Alors, comment vont-ils... Ils sont les seuls responsables. Comment maintenant vont-ils s'en servir pour faire des profits sur notre dos? Eh bien, ils vont employer ce que Naomi Klein appelle dans son livre sur le capitalisme du désastre la stratégie du choc. On va nous mettre, on va travailler nos cerveaux sur l'émotion. Les morts, les brancards, les enterrements où on ne peut pas être, la peur, la psychose, les chaînes de radio en continu, les morts, les catastrophes. On installe une psychose, on nous confine, ça règle le problème de se retrouver, de discuter, de manifester ou de faire grève, ça règle tous ces problèmes à la fois. Et pendant ce temps, eux, ils sont au boulot. Alors là, en ce moment, par exemple, ben, ils sont en train de... Macron a envoyé une note de travail en direction de la Caisse des dépôts et consignations pour donner un grand coup d'accélérateur à la privatisation du système hospitalier français de santé. Un grand coup d'accélérateur pour donc privatiser la santé. Alors qu'il dit le contraire dans ses allocutions. Mais si vous voulez, il va le faire pas comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, on va faire des partenariats publics-privés, vous allez voir, ça va être vraiment bien, efficace et tout. Il va dire, vous voyez, on va mettre beaucoup d'argent dans les établissements publics, dans les établissements privés de santé à but non lucratif. Donc avec des mutuelles, ça fait chic, des fondations, ça fait chic, mais derrière, je peux vous assurer que c'est les marchés financiers qui sont derrière. Ensuite, il va dire, oh, il faut être innovant, il faut être moderne, et donc on va faire de la santé numérique. Vous n'aurez plus besoin d'aller chez les médecins, vous réglerez tout ça en tête-à-tête avec vos ordinateurs, et vous allez voir, ça va être un grand bond en avant au service de la santé des Français, tout à fait extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un conseil de chercheurs, un conseil scientifique avec des chercheurs. Quand on regarde la liste des 12 chercheurs, on se rend compte qu'il y en a pas mal qui ont des intérêts avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Alors que, évidemment, si Emmanuel Macron était vraiment le président de la République des Français et non pas le fond de pouvoir de l'oligarchie, il aurait dû mettre dans ce conseil scientifique, bien entendu, des soignants, des infirmières, toutes sortes de personnels qui sont en contact direct avec des médecins sans lien avec les laboratoires pharmaceutiques pour justement avoir des avis, des conseils qui soient des conseils profitables à la population française. Tandis que là, ce qui les motive, stratégie du choc, c'est on va donner un grand coup cruel et cynique pour le peuple, mais un bon coup en avant pour faire rebondir dans une résilience toxique le néolibéralisme.
Nouveau rituel sur Radio Sans Nous. Tous les midis, des sons, des cris. T'as envie de nous parler d'écrit, de crier, de nous parler d'un livre que t'as aimé ou d'un texte, de nous en lire un extrait ou la totalité.
Que j'adresse aussi ce courrier à d'autres noms.
On attend tes contributions sur radio.sansnous@cma-pdll.org. Objet du message, des sons d'écrit.
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. C'est un roman de Lola Lafont qui est paru en 2014, je crois. Et alors, je vais vous lire la quatrième de couverture, mais au-delà de ce livre-là, alors j'en ai lu plusieurs des romans de Lola Lafont et à chaque fois c'est un vrai bonheur. Une fièvre impossible à négocier, par exemple, ou De ça je me console, La petite communiste qui ne souriait jamais. C'est des bouquins qui m'ont touchée parce que un peu comme Virginie Despentes, Lola Lafont, elle raconte des personnages, elle raconte des lieux, elle raconte des manières d'être en relation entre les gens qui ressemblent à des milieux dans lesquels moi j'ai grandi politiquement, dans lesquels voilà, je me reconnais quoi. Et ça fait du bien parfois de lire des livres, je trouve, où l'environnement des personnages et puis la manière de vivre des personnages et d'être en relation avec les autres, elle n'est pas complètement différente de la mienne. Voilà. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Le cœur d'Emilienne, surnommé Émile, s'est arrêté de battre trop longtemps. Maintenue en vie par une machine, elle semble ne jamais devoir se réveiller. À ses côtés, la narratrice puise courage et patience dans l'évocation de leur amitié et des souvenirs partagés. Les engagements enflammés de l'une, la pratique passionnée de la danse pour l'autre. En l'absence de celle qui s'attarde au bois dormant, la narratrice fait la connaissance d'une étrange jeune femme qu'elle surnomme la petite fille au bout du chemin. Celle-ci la projette dans une vie palpitante qui jusqu'ici l'effrayait. Une vie où l'on tourne le dos au silence et à la prudence, où l'on se révolte et l'on se bat. Une vie qui aurait un sens, enfin. À travers trois portraits bouleversants, ce roman, irrigué d'un feu poétique dévastateur, proclame l'insurrection nécessaire des jeunes femmes aspirant à la liberté. Bon, d'accord, la quatrième de couverture, en tout cas la fin, est un peu... Peut-être que c'est un petit peu exagéré, quoi. Mais en tout cas, effectivement, Lola Lafont, elle raconte des histoires, et souvent des histoires de femmes, d'ailleurs surtout des histoires de femmes, et des histoires de femmes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, des histoires de femmes qui vivent leur corps, qui vivent leurs relations aux autres, qui vivent le collectif de plein de manières différentes, mais en tout cas de manières qui, moi, me plaisent, me touchent, font écho à ce que je vis ou à ce que j'ai vécu. Et voilà, et c'est vraiment un chouette moment de lecture. Et puis le dernier bouquin dont j'avais envie de parler, pareil, c'est pas vraiment un bouquin, c'est plutôt un auteur, c'est Martin Winkler, qui a écrit « Le cœur des femmes »,« La maladie de Saxe » et bien d'autres bouquins. Et en fait, Martin Winkler, je l'ai découvert la première fois, c'était dans une réunion d'un groupe non mixte de femmes. Et dans ce groupe, on parlait surtout de nous, hein. On n'inventait pas beaucoup d'actions vers l'extérieur, mais en tout cas, on se parlait de nous et du fait d'être des femmes. Et puis un jour, forcément, on a parlé de contraception. Enfin, forcément, je sais pas, mais en tout cas, nous, on a parlé de contraception. Et il y a une copine qui est revenue la fois d'après avec un livre de Martin Winkler qui s'appelle Contraception avec un S majuscule à la fin. Et voilà, c'est la manière dont j'ai découvert cet auteur. Et puis après, j'ai découvert ses romans. Et alors, souvent, ça m'agace un peu les auteurs, les mecs, en fait, qui écrivent sur les femmes. Et là, non. Et là, non, parce que ça mélange plein de choses et ça dit des choses très justes sur, sur le corps, sur comment on vit notre rapport au corps en tant que femme par rapport aux autres femmes et aux hommes. Et voilà, et c'est par exemple La maladie de Saxe. C'est un bouquin que j'aime bien parce que c'est un médecin et puis que ce médecin il va essayer de soigner la maladie, mais sans doute qu'il soigne pas que ça. Je vous lis aussi la quatrième de couverture. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Bah pas bien, sinon je serais pas venue. Moi ça va, mais c'est ma femme qui va pas. Mieux, c'est pas encore ça, mais c'est mieux. C'est pareil. Vos remèdes ne m'ont rien fait. C'est pas pire. Mais j'ai toujours du mal à dormir. Eh ben, j'ai plus mal, mais maintenant ça me démange. Dans le cabinet du docteur Saxe, les plaintes se dévident. Les douleurs se répandent. Sur des feuilles et des cahiers, Bruno Saxe déverse le trop-plein de ceux qu'il soigne. Mais qui soigne la maladie de Saxe? Voilà, et ben je vous souhaite bonne lecture.
Salut les petits cululus, c'est Poulo. Et vous êtes bien sûr Radio Sans Nous. Jeudi soir, c'est scène ouverte. Tu peux envoyer ton son à radio.sansnous@cma-pdll.org. Et je compte sur vous pour foutre le feu.
Nous sommes en guerre.
Alors, bonjour, bonjour, rebonjour, rebonjour. Je suis désolé, j'ai coupé le début de la playlist, mais c'était pour vous dire que ce soir à 19h, ce soir sur Radio Sans Nous, il y a du jeu. Alors, c'est le micro, je le prends, voilà, là, comme ça, c'est pas mal. Du coup voilà, vous êtes invité à 19h pour jouer. Et puis bah, comme on l'avait dit tout à l'heure, là, juste après la playlist, à 2h, il y a le quiz Star Wars avec Pouldo. Alors n'hésitez pas à venir à 2h, il faudra se mettre sur le chat. Du coup pour se mettre sur le chat, comme d'habitude, vous allez sur covid19.cma-pdll.org et vous cherchez Radio Sans Nous. Voilà, et du coup ça permettra que vous accédiez au chat. Et puis on se retrouve du coup tout à l'heure pour le quiz à 14h. Peut-être qu'à 18h30 il y a l'émission en arabe, du coup pour une demi-heure ce soir seulement, parce qu'à 19h il y a le jeu et qui va durer quasiment jusqu'à 21h. Et à 21h on se retrouve pour le spectacle, on appelle ça la scène ouverte, où on a déjà reçu plusieurs musiques et on a reçu des tours de magie. Voilà, donc prenez votre paquet de cartes, prenez vos papiers et vous allez vous faire des auto-tours de magie, ça va être super. Je vous envoie la musique.
Nous sommes en guerre. We'll be right back.
We'll be right back. Na 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 Well, they tell me I'm a pie up in the sky, waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, you know they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now, what is mine? And then the harder they come, the harder they fall, one and all. The harder they come, harder they fall, one and all. And the oppressors are trying to track me down, they're trying to drive me underground. And they think that they have got the battle won. I say forget them, Lord, they know not what they've done. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my skin out, what is mine? And then the harder they come, the harder they fall, one and all. Harder they come, harder they fall, one and all.
You know that I can't cry. Tomorrow's here, tomorrow's here. tomorrow's tears, tomorrow's tears. You know that I can't cry. Tomorrow's tears, tomorrow's tears. You know that I can't cry. Tomorrow's tears, tomorrow's tears. Oh, you know that I can't cry. Tomorrow's tears, tomorrow's tears. You know that I can't cry. Tomorrow's tears, tomorrow's tears. You know that I can't cry. Tomorrow's tears, tomorrow's tears. Yeah. Oh.
Ceci est une annonce. Dans 3, 4, 5 minutes, on est en direct avec Pouldo pour faire un quiz Star Wars. Alors, envoyez donc des SMS et des textos à vos amis afin de se retrouver sur le chat de Radio Sans Nous.
Mais comment fait-on donc pour aller sur le chat de Radio Sans Nous? Ah, ça, c'est une bonne question. Eh bien, il suffit pour cela d'aller sur le site covid19.cma-pdll.org et de chercher le truc Radio Sans Nous et de voir comment est-ce qu'on se connecte au chat. On se retrouve donc dans 3-4-5 minutes, dans 3-4-5 minutes avec Pouldo pour le quiz de Star Wars. A tout de suite, c'était une annonce.
Around here in the evening, around here anytime at all. Voilà, c'est le sommaire. Voilà, et c'est la fin de la playlist. Et c'est Pouldo qui est parmi nous. La fin de la playlist. Et Pouldo est parmi nous. Salut Pouldo.
Salut les petits Jedi. Ça va? Ah, Madoué. Déjà le combat, déjà la guerre intergalactique dans le chat, c'est ça qu'on veut. Et en même temps, non. Mais en même temps, un peu. Mais bon, c'est peut-être ça, au final, qui nous unit. C'est le fait de débattre autour d'un même univers, quoi. De pas tous être d'accord. Qu'il y ait des scissions, qu'il y ait les postologistes, qu'il y ait les prélogistes. C'est incroyable, au final. Oh là là, C3PO déjà beaucoup trop excité, ça ne va pas du tout. Bien sûr, les prélogistes orthodoxes, on en a déjà parlé, MDB, le plaisir est au rendez-vous. Breaking news, c'est nul. Ah, Joss, le présentateur du quiz de mardi, du quiz Game of Thrones, bien entendu. Qui n'est pas connu pour sa diplomatie et qui juge de manière intéressante le Mandalorian apparemment ou 7-8 à savoir. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on aime aussi. C'est pas pour rien que c'est lui qui présente Game of Thrones, jeu de trône. Voilà. C'est le conflit, on aime ça. On va commencer dans pas longtemps. Il y a juste JB qui attend un peu vos retours, que vous lui dites si le son est bon, si c'est pas trop haut, si c'est pas trop bas. On va prendre notre temps, ça aide à la cool comme la dernière fois. Je vous ai proposé des petits jeux. Il y aura pas que des quiz, il y aura aussi deux trois petites questions un peu intéressantes. Et ça, c'est cool. On essaie de s'améliorer à chaque fois. Voilà, la recette prend un peu plus de sel, comme on dit, dans le milieu de la recette. Le son est bon. Ok, il est 14h08. Il y a du monde au balcon. Et c'est ça qu'on aime. On va pouvoir commencer, si JB m'en donne le feu vert. Mais non, c'est 3PO. Moi, ça fait partie, c'est 3PO, de mon style d'être à la cool. Et ce sera comme ça. Et il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci avec ça. En avant. On te met prêt, JB? JB, s'il vous plaît.
Pouldo, m'entends-tu?
Là, je m'entends.
Pouldo, m'entends-tu?
Oui, absolument.
Ah, super.
Je peux envoyer la sauce?
Vas-y donc.
Eh bien, c'est parti. Jean-Paul Bacta. Bienvenue au quiz numéro 2. Aujourd'hui, ça va parler un peu de tout. La dernière fois, on avait demandé des questions un tout petit peu sur l'univers étendu. D'autres gens disaient, ah, c'est un peu chiant, nanana. Du coup, il y aura des micro-questions bonus sur l'univers étendu, mais ça parlera, comme la dernière fois, des trois magnifiques trilogie que J.J. Abrams et George Lucas nous ont proposé. Et c'est parti. On va aussi parler un peu des Star Wars Stories. En avant, petite question numéro 1. Quel est le nom de l'actrice qui joue Jyn Erso dans Rogue One? Les trois magnifiques trilogies, dont la dernière qui est un chef-d'œuvre et un petit bijou. Jones, oui. Est-ce que vous avez son... Ah non, c'est pas ça, c'est pas Felicia, on n'est pas loin. C'est Jones. Jyn Erso. la rebelle extrêmement stylée, à presque. Si vous n'avez pas encore vu Rogue One courir, c'est un très beau film de guerre dans l'univers Star Wars. Un très beau film de guerre, on s'entend. Felicity, c'est bien Felicity Jones. Et elle déboîte. Et voilà. Ça fait partie des trilogies, non ? C'est un Star Wars story. Mais c'est dans la trilogie, mais comme solo, enfin c'est dans l'univers. En avant, les petits choupis. Et enfin d'ailleurs, au passage, les Star Wars Story, c'est assez intéressant parce qu'ils font du coup des films de genre. Solo, beaucoup plus avec les codes du western. Rogue One avec les codes du film de guerre. Mais ce n'est pas avec des codes épiques et mythologiques comme les autres Star Wars avec des Jedi, avec un univers étendu. Voilà, voilà. Mais moi, je kiffe un peu tout. Moi, je suis simple. Je suis simple d'esprit. Deuxième question. Qui a composé le morceau Cantina of Mos Eisley qu'on entend dans le début du 4? Williams, John Williams, bien entendu. C'était simple, mais ça fait plaisir. Ok, on continue. Une simple fille. Quelle est la culture de Django et Boba Fett? Le groupe de la cantina. Oui, non, ça c'était pour la question d'avant. Oui, ce sont des Mandaloriens, bien sûr. Culture mandalorienne. Super. Continuons. Ça va aller il y aura des questions un peu différents niveaux pour que tout le monde puisse s'y retrouver, kiffer un petit peu. Dans le 2, sur quelle planète se passe le premier combat de la guerre des clones? Dans le 2, sur quelle planète se passe le premier combat de la guerre des clones? Ce n'est pas Malastar, c'est MDB, incroyable, très rapide. Ce n'est pas Tatooine non plus, c'est bien Geonosis, ce n'est pas Alderaan. C'est Geonosis, en effet, MDB. Oui, oui, oui. C'est la planète, vous savez, où il y a des petits merdiers volants, là. Où il y a le comte Dooku et tout ça. Voilà, voilà. Puis la fameuse scène de bagarre avec les grosses bébêtes. Super. Alors là, on va arriver à une question un peu plus hoche. Il va falloir faire travailler un peu les méninges, la mémoire et pourquoi pas le collectif. Dans combien des 9 films, là je parle bien des 3 trilogies et pas des autres, combien des 9 films voit-on Tatooine? Dans combien des 9 films voit-on Tatooine? Y a-t-il une scène sur Tatooine? Le 4, c'est bon. Le 6, c'est bon. Quatre films. Ah ouais, moi je joue tous les films. Je vais montrer les films. Il y a dans le 3. Ah bah, c'est une question ou c'est un. Le 5, un doute. Il va falloir travailler ces petits méninges là. Dans le 6, ouais. Dans le 4 aussi. Alors, petit papillon. 1, 2, 3, c'est bon. 4, 9, c'est bon. 6, c'est bon aussi. 3, 4, 6. 1, 2, 3. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 6, 9. C'est votre dernier mot. 6 au total. Et bah oui, en effet. C'est bon, vous avez trouvé assez vite. En effet, dans le 3, le moment où on voit Tatooine, c'est le moment où, la toute fin, où Obi-Wan amène le bébé Luke à son oncle et sa tante sur Tatooine. Et on ne le voit pas dans le 5. Il se passe d'autres choses, on ne les voit pas sur Tatooine. Ni dans le 7 et le 8, c'est dans le 9 où à la fin, Rey retourne sur les pas un peu
ses ancêtres adoptifs. Avec énormément de swag, je tiens à le dire. Voilà. Passons à la suite. Dommage, petit peu. C'est très bien. Qui sont les deux acteurs qui interprètent Obi-Wan et Kenobi? Ewan McGregor, ouais. Il y aura d'autres questions acteurs, hein. Je suis désolé, il faut aussi un peu de background. Et Alec Guinness en effet, oui, Alec Guinness dans le 4, et puis qui réapparaît aussi en fantôme. Et ce très beau gosse de Ewan McGregor. Les questions ordiégeuses, bah écoutez, boudez mon brave, boudez, boudez donc. Dans le 3, quel est le nom de l'astéroïde aménagé dans lequel Padmé met Luke et Leia au monde? Dans le 3, quel est le nom de l'astéroïde aménagé dans lequel Padmé et Luke met Leia au monde? Ce n'est pas Tantive 4. Tantive 4, Medibloc, ouais, c'est dans un Medibloc, mais ce Medibloc est quelque part. Emmerich, presque. Eh oui, Kid Gotha, Police Massa, en effet, c'est sur Police Massa. C'est un petit, un petit astéroïde aménagé, en effet. Mais oui, c'est normal, MDB, que tu te sois trompé avec Tantive 4, parce que c'est l'architecture d'Alderaan, et du coup, voilà, c'est pas étonnant. C'est dans quel système, je sais pas. Je ne sais pas, mais oui, Police Master, en effet. Bah oui, il y a des questions un peu dures, c'est trop peu, oui, il y a des questions un peu moins dures. Bravo, Kid Gotha, le plaisir est au rendez-vous. 5 films réalisés par George Lucas. Un, deux, trois, quatre, oui. Le 5, non. Le 6, non plus, c'est pas plus haut. Eh oui! Allez, on casse les clichetons, là! Ça fait plaisir, Mikhaïl Graffiti, c'est oui! Indiana Jones, non. Il n'est pas réalisateur, il est scénariste. Waouh! Le spécial de Noël, tu vois, ça, c'est illégal! Mais oui, ça compte, mais spécial, je suis même pas sûr qu'il ait réalisé ça. Non, enfin, en tout cas, j'ai fait mes recherches, j'ai pas vu qu'il avait fait le spécial de Noël. Et ce serait complètement illégal. Je l'espère, en tout cas, que c'est pas lui. THX 1138. En effet, vous avez aussi des American Graffiti. C'est le 1, 2, 3, 4. Le 5 et 6, il était fatigué, et il a demandé à un petit pote à lui, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, de réaliser à sa place, mais il reste scénariste. Super. Et bah bravo. On fait un petit intermède drôlatique. C'est l'instant fan fiction. Ok. On va faire une fan fiction collective. Il faut une romance au temple Jedi qui se passe entre le 2 et le 3. Il faut se mettre d'accord et rendre l'histoire crédible. Il faut qu'on choisisse les protagonistes, l'univers un petit peu là, collectif. On se prend 5 minutes et on veut une belle romance. Juste au temple, sur Coruscant, mais ça part du temple Jedi, avec des personnages du temple Jedi, et après on construit ça ensemble. N'hésitez pas à mettre... utiliser des adjectifs qualificatifs. Yara et le pouf. C'était trois peaux comme perso principal. Il faut que ça vous donne envie un minimum, quoi. Il faut que ce soit un minimum attrayant, parce que c'est 3 PO dans une romance, pourquoi pas. Mais... Ah, une romance, oui, ça peut. On peut commencer par ça, MDB Obi-Wan qui pleure la disparition de son maître, qui va être peut-être aidé, on va lui remonter le moral, peut-être le petit Fisto peut remonter le moral, pourquoi pas. On parle d'Aïla Secura. Il est in love de Dark Sidious. Ils n'ont pas le droit, Dark Plaquette, mais justement, un interdit qui est outrepassé, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Dans le temple de Jedi, il s'en passe des choses, au détour d'une bibliothèque. C'est un Jedi qui faiblit. En plus, Obi-Wan, il y a pas mal d'endroits dans l'univers étendu où il fricote quand même un petit peu avec une petite noble sur une des planètes, je ne sais plus laquelle. Et qui va peut-être se ressaisir. C'est un Jedi qui faiblit et qui va peut-être se ressaisir. Après, il peut avoir une sorte d'amour très fusionnel et quand même platonique. Mais c'est vrai, même dans le canon, pour Obi-Wan. Ah ouais, carrément. C'est une reine mandalorienne, je sais pas. Okay. Continuons notre histoire. Alors, on choisit qui avec Obi-Wan là ? Kit Fisto, Aayla Secura, Dark Sidious a été proposé aussi. Pour l'instant, on a Obi-Wan, qui est triste de la disparition de son maître, qui pleure, il est surpris par Kit Fisto, pourquoi pas. Ils peuvent transférer leurs âmes dans des robots pour baiser sans tout passer les interdits physiques du conseil. Vous voyez, c'est exactement ça que je voulais. C'est exactement ce genre de choses que je voulais en proposant ce petit jeu. Et c'est incroyable. C'est une technique site, le transfert d'essence. Alors continuons. Alors Kit Fisto, on va partir sur Kit Fisto. On leur fait une petite bromance un peu monastique, un peu belle. Kit Fisto surprend Obi-Wan au détour d'une bibliothèque en train de pleurer. Il ne peut pas retenir ses larmes, il pleure silencieusement. Kit Fisto pose silencieusement une main sur l'épaule musclée d'Obi-Wan qui est dans sa tenue de Jedi au temple. Il n'est pas en armure de combat. Dans son armure de général, il n'a qu'un simple tissu qui laisse apparaître sa musculature indiscrète de Jedi, de combattant. Kit Fisto lui propose de boire un petit thé et de discuter de la mort. Ça faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas touché comme ça, dit Obi-Wan, qui ressent en lui un petit papillon, un petit coup de papillon dans le bidon, comme on dit. Oh Kit, je ne vous connais pas tant bien que ça. Bonne idée, votre thé. Ah bah Emmerich, il est reparti avec Sidious. Et le courant a bien passé, très bonne blague d'éclair. Continuons donc. Nous sommes en train de prendre le thé. Kit Fisto et Obi-Wan prennent le thé. Plus d'idées, vous sécherez. Est-ce qu'à la fin tout le monde peut mourir pour qu'on passe à la suite ? Et il médite dos à dos dans une pièce grotte fermée pour atteindre une fusion mentale dans laquelle il peut vivre du charnel via le spirituel. Je vous ai dit que j'avais des belles tentacules, pourquoi pas ? Je vous ai perdu vous aussi. Vous avez perdu vous aussi un être cher, Kit. Je suis Philippe Pépé, je suis dans la bromance. Le soleil se couche et donne à la scène une ambiance si spéciale. Vous êtes super! Des soirs d'été, vous êtes super, c'est exactement ça que je voulais. Magnifique. Et tout le monde meurt. Allez, non, mais en tout cas, pas mal, là, à la fin, il médite dos à dos dans une pièce de grotte fermée pour attendre une fusion mentale dans laquelle il peut vivre un chat. Du charnel via le spirituel. Super. Eh ben écoutez, On continue, mes petites potes et mes petits potes. On continue le quiz. C'était très bien, vous m'avez rendu très heureux. Bah oui, bien sûr, il y a l'heure 66 qui va régler le problème. Oui. Si je vous dis Faucon et Dragon et que je veux une actrice. Si je vous dis Faucon et Dragon, je veux le nom d'une actrice. Emilia Clarke. Je n'en attendais pas moins, Joss, de la part de la personne qui va nous proposer Goth. Et oui, oui, c'était MDB, c'est une petite malice de ma part. Je donne que deux mots et il faut trouver le nom d'actrice. En effet, c'est Kira dans Solo. C'est la copine qui vient de Corellia, comme Anne ou Yann pour les Bretons. C'est hors diégèse, ça, pourtant. Bah oui, mais Joss, il a quand même géré. Bravo. Non, c'est pas Carrie Fisher. Je pense pas que Carrie Fisher ait joué avec des dragons. Elle était Khaleesi dans sa vie. Et bah bravo, les petits potes. C'est bien Emilia Clarke. La Khaleesi du système coranien. À la suite, maintenant. Durant la guerre des clones, sur quelle planète Yoda est-il général? Genesis peut-être. Kashyyyk, oui, c'est sûr. Genesis, oui, il y a moyen. Ouais, c'est vrai que... Désert de Gobi, je ne pense pas. Sur Kashyyyk, oui, bien sûr. Dagobah, je suis pas sûr de ça. Hein. Je pense pas qu'il arrive à Dagobah avant de se
retirer de la force.
Les plaines du Limousin, ça c'est possible. Ouais, ça m'étonnerait pas du tout. C'est assez forestier en effet. Ouais. Il y en a d'autres, je sais pas. En tout cas, Géonosis, il y participe. Je sais pas s'il est général, mais ça c'est pas étonnant. Et Kashyyyk, oui, carrément, on le voit dans le 3. Il combat aux côtés de Chewie, qui est un jeune rookie de qualité, enfin jeune. Il a 100, je sais plus combien d'années, 130, je sais pas pourquoi, du coup c'est 30 ans. Enfin bref, 30 ans de moins, du coup, c'est quand même un beau rookie. Coruscant, dans les batailles Coruscant, sûrement, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas la guerre sur Dagobah, peut-être, mais en tout cas pas dans les films. Peut-être sur l'univers étendu, ça. Sûrement, il y a plein d'autres trucs qui se passent dans Clone Wars, il doit être général sur plein de planètes. Et ça, c'est sûr. Dans le 3, elle est pas finie, la guerre sur Kashyyyk. Enfin, on le voit au début du 3, je crois bien. À moins que ce soit dans le 2. On mettait en doute mes connaissances. C'est pas grave. C'est bien. Oui. On passe à la prochaine question. Et on ira vérifier sur Dagobah quand il la rejoint, peut-être. Peut-être. J'avoue que là, je vais poser une question qui dépassait mes connaissances. Utapao, je sais pas, bah, j'ai pas connaissance, il y a Obi-Wan qui, enfin en tout cas dans les films, il y a Obi-Wan qui va sur Utapao pour botter 2-3 culs de Grievous, mais pour lui briser le cœur. Allez hop, bromance, Grievous, Obi-Wan. Non, je rigole, non, c'est pas bon. On continue le quiz un minimum, quoi. Vous êtes prêts et prêtes pour la question suivante? C'est bien, il y a du monde là, ça fait plaisir. Vous me remplissez de joie. C'est parti. Dans l'univers canon. Dans l'univers canon. Comment on fait un sabre rouge? L'univers canon, comment fabrique-t-on un sabre rouge? Avec de la gouache vermillon, C3PO. Avec du sang de vierge, petit papillon non plus. Cristal synthétique, et non, ça c'est pas un canon. Cristal rouge non plus. Et ouais, c'est bien l'univers canon, les petits potes. Cristal rouge, non, ça a été mis légende. C'était la version il y a encore quelques années. Et ça a été mis légende comme théorie. On torture un cristal gentil, MDB, oui, c'est ça. On fait pleurer son cristal, invite 2, en effet. C'est ça, c'est faire pleurer son cristal Kaber. Et qui est un cristal, du coup, à la base au naturel, qui est bleu ou vert. Carrément. Carrément, carrément, on corrompt le cristal. Carrément. Bah du coup, dans l'univers étendu, dans l'univers légende, un peu, vous avez répondu. L'autre façon, c'est... bien sûr d'aller l'autre façon, la façon légende, c'est d'aller chercher son petit cristal rouge, en effet. Et d'ailleurs il y a même une version légende avant où c'était l'inverse, c'était les Jedi qui avaient du bleu et du vert parce qu'ils les avaient normalisés, qu'ils avaient construit des cristaux synthétiques. Enfin, il y a plusieurs versions, il y a une version où c'est l'inverse, quoi. Une version où c'est les Sith qui font un cristal synthétique pour qu'il soit plus puissant, et voilà. Il y avait même, j'avais vu qu'il y avait aussi des versions qui disaient que c'était... notamment, il avait un violet. Mace Windu avait un sauf violet parce qu'il avait fait comme les Sith et qu'il était allé chercher un cristal pur en faisant tout un merdier pas possible sur une planète, machin. Et du coup, c'était un truc, normalement, de la tradition Sith, d'aller chercher des trucs. Voilà, voilà. Donc, c'est tout un merdier, mais en tout cas, voilà, dans l'univers canon, on se vénère sur son sable de base. On fait passer du côté obscur. Les cristaux Kyber ressentent la force d'une certaine manière et on peut les faire passer du bon ou du mauvais côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire un cristal blanc, c'est quand on arrive à base d'un cristal rouge à faire revenir, à faire repasser son cristal Kyber du côté, enfin, l'équilibre de la force. Quoi. Bah ouais, le sable violet, en effet. On en a parlé dans le quiz numéro 1, mais je pense que t'étais pas là, mais oui. C'est en effet. Un caprice de Samuel Lee Jackson. Du coup, dernière petite question annexe. Comment Kylo Ren fait-il... Pourquoi Kylo Ren fait-il crépiter son sabre, du coup, d'après la version canon ? Parce qu'on m'a demandé des petites questions sur ça aussi. Parce que c'est stylé, petit papillon. Bah oui, en effet, déjà. Parce que c'est un bolos, faut expliquer un peu plus. Il n'arrive pas vraiment à le faire pleurer, c'est ça. C'est ça, MDB. Son sable, bah ouais, il est instable. Il disait presque. Enfin, c'est ça, il est instable en effet. Il n'arrive pas vraiment à le faire pleurer. Enfin, si, il arrive à le faire pleurer. C'est un peu ça. Il lui met trop de. Enfin, il met trop de patates d'un coup, il sait pas faire, il fait un peu le bolos, c'est. Il met trop de patates d'un coup dans son sabre. Et ça le. Voilà. Ça le fait crépiter parce qu'en fait le cristal est trop faible par rapport à la puissance qu'il met dedans. Voilà. Il maîtrise pas la puissance. Oui, ou il maîtrise pas la puissance. Ok. Question suivante. Dans le 1, 2, 3. Il y a une autre représentante de l'espèce de Yoda. Je veux son nom. Yaddle, Darth Claquette, très bien. Bam, directos. C'est Yaddle. Elle a des cheveux. Bah oui, elle a des cheveux. Fort vrai. Elle fait partie du conseil de Jedi, on la voit pas. Et oui, je sais, dans le 1, 2, 3. On la voit assez peu. Mais elle est dans le conseil Jedi, c'est une des Jedi. Voilà, Yaddle. Et je pense d'ailleurs que dans. Il y a sûrement des histoires la concernant durant Clone Wars. Voilà, je pense. J'ai pas tout vu. Ouais. Ah, c'est juste dans le 1, elle est changée après à partir du 2 peut-être, parce qu'en fait les conseils Jedi ils changent entre le 2 et le 3, entre le 1 et le 2 aussi peut-être un peu. Et puis bien sûr il y a Yoda après, mais là c'était sur le 1, 2, 3. Et on ne connaît pas le nom de l'espèce de Yoda Yaddle et de bébé Yoda, trop chouchou bébé Yoda. Oui. Ok, la suite. Est-ce que George Lucas joue dans Star Wars en tant qu'acteur ? Oui, c'est 3PO. Oui, un soldat. Oui. Un Stormtrooper. Un Stormtrooper, pardon. Repeat the question, please. George Lucas joue-t-il dans Star Wars ? Darth Claquette. Eh bien, en tout cas, oui, mais c'est pas un soldat ou un Stormtrooper. En tout cas, il a peut-être joué dedans, mais il n'est pas au générique pour ça. Il n'a pas été considéré comme acteur là-dedans, ou peut-être on voit pas son visage, tout simplement, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, dans mes recherches, il y a un autre personnage qui a carrément un background et tout, dans lequel il joue, qu'on voit apparaître quelques secondes à l'écran. Donc, 3. Mais il joue en fait un homme d'affaires célèbre, voilà, sur Coruscant, qui est en train de parler pendant un des plans du conseil. Et il s'appelle le baron Papanoïda. Voilà, vous pourrez aller voir, vous pouvez taper baron Papanoïda après le quiz, et puis vous verrez sa petite gueule de George Lucas. Et après, ils sont amusés avec ce personnage, ils en ont fait un vrai personnage dans l'univers Clone Wars. Voilà. Un petit baron. Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes là ? Ah. Nous allons donc continuer. Continuer. On est là. Petit papillon. On a compris la ref. Clin d'œil, clin d'œil. Deux personnages qu'on voit dans les 9 films. Deux personnages qu'on voit dans les 9 films. Et oui, vous êtes chaud. C3PO. Chewie, non. Et oui, non. Chewie, on ne voit pas dans les 9. R2-D2. 3PO. En effet. Yoda, non. On ne voit pas dans le 4. Et on ne voit pas dans le 7 et 8 non plus, d'ailleurs. R2-D2 et C3PO, ouais, c'est les deux seuls, je crois même, personnages qu'on voit dans les 9 films. Question suivante. En 1977, dans la version française du 4, quel est le surnom de Chewbacca? Le surnom de Chewbacca. Dans la première version française de 1977. C'est le poilu, non, le hirsute non plus. Chico et Chictaba. Chictaba, c'est son vrai nom. Et Chico, c'est son surnom. Eh oui. Bordel de Dieu. Ma carpette ambulante, c'est comme ça que l'appelle. C'est comme ça que l'appelle Yann. Mais ouais, dans la première version, il s'appelait Chictaba, et non pas Chewbacca, et son surnom c'était Chico, et non pas Chewie. Et là, on est dans le vif du sujet, quoi. C'est magique. Comment s'appelait, toujours dans cette version 1977, comment s'appelait la guerre des clones ? Chictaba. Comment s'appelait la guerre des clones? La grande guerre Jedi, non. Pas dans la première version. Kid Gotha, oui, c'est la guerre noire. Pareil, Émeric, bravo. C'est pas non plus la guerre contre la République, c'est la guerre noire. Obi-Wan lui parle de la guerre noire. En effet. En effet, en effet. Et comment s'appelait C3PO? Mais si, on y a encore accès. 6PO, Z6PO, en tout cas, ouais. Z6PO. Carrément. Vous gérez. Grave. Ça fait plaisir. On arrive à la fin de ce quiz. Il reste un dernier jeu.
J'aimerais vraiment que vous y jouiez, car c'est intéressant. Avant tout, avant de poser cette question, j'aimerais vous demander à l'avance d'argumenter, de donner les raisons pourquoi. Je vous demande aussi de respecter les avis des autres dans les commentaires, car c'est le dernier jeu, du moins la question que je vais vous poser pour clore cet opus 2 du quiz Star Wars de qualité supérieure. Quel est votre personnage favori et pourquoi?
Yarel Pouf, petit papillon. Je crois qu'il y a Yarel Pouf, je suis pas sûr, mais c'est pas le Jedi qui a deux cerveaux, un dans la poitrine et un dans la tête, et qui a un cou hyper long? Est-ce que je me trompe? Han Solo, Emmerich. Est-ce qu'il a un cou? Voilà, c'est ça. Il a un cou tellement long qu'il sort du cadre, petit papillon. Leia, courage, détermination, honnêteté. Ah, Revan, Darth Plaquette. Ouais, je dirais que j'ai pas dit dans les neuf. Darth Revan, qui est un site de l'Ancienne République. Bon, un site, un Jedi aussi, je crois. Je connais peu, mais... Ok, vous pouvez parler, vous pouvez dire pourquoi Dark Revan, pourquoi Han Solo. Obi-Swag du mulet, là, le fameux mulet d'Obi-Wan. Bien sûr, de toute façon, il a eu des coupes... Ewan McGregor, je pense, si on fait un film de toutes ses coupes de cheveux, c'est assez incroyable, quoi. Contrebandier au départ sans cœur, qui au fur et à mesure devient un héros, au grand cœur. Sa mort m'a fait pleurer. Oh, bah oui, je comprends. C'est vrai que c'est... C'est vrai qu'il a du style, le bougre. Alors, Revan, pour Darth Plaquette, c'est le seul perso qui a vécu les deux côtés de façon construite, c'est vrai. Pas comme Vador, on aperçoit juste son changement à la fin. Revan se scinde aussi, puis aussi il fume des mandos. Je sais même pas ce que c'est des mandos. Commandant Cody au rapport. C'est qui le commandant Cody? C'est ça. Moi j'aime bien le type tout niqué, un peu cyborg, qui mène la rébellion version hardcore. Oui, bien sûr. Ouais, il déboîte. J'ai oublié son nom là d'un coup, qu'on voit dans Rogue One et qu'on voit aussi dans 2-3 jeux vidéo. Bien sûr. Personnage préféré, Qui-Gon Jinn. Vous pouvez me redire le nom du qui mène la rébellion trop badass là. J'ai toujours son nom, mais il est trop classe. J'étais même allé m'intéresser un peu.